trois actualités économiques parmi d'autres en ce mardi 18 janvier. Plus d'1,60€ le litre de gazole en moyenne la semaine passée, plus d'1,70€ le sans-plomb. Les prix des carburants atteignent à nouveau des records, symbole d'un coût de l'énergie en pleine explosion. Et ce n'est qu'un début, la transition énergétique inévitable demandera des milliards d'investissements. Petit 2, Bruno Le Maire a présidé hier son premier conseil des ministres des Finances de l'Union européenne dans le cadre de la présidence française. Le ministre français appelle à revoir les règles s'agissant de la dette et des déficits. L'Allemagne est-elle d'accord? Pas sûr. Pas sûr du tout. Petit 3, 16%, c'est la hausse moyenne des salaires négociés dans l'hôtellerie-restauration. Les négociations continuent dans d'autres secteurs. En toile de fond, la hausse du coût de la vie. Dans ce contexte, quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle en matière économique? Comment tenir les différents leviers? Investissement, salaire, économie, sortie du quoi qu'il en coûte. On ne voit rien de très clair émerger à un peu plus de 80 jours du premier tour. L'invité du 13-14 est l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui se tenait il y a quelques jours, et il appelle les candidats à s'emparer d'urgence de ces sujets. 01 45 24 7000 pour vos questions et réflexions et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi.
Bonjour.
Merci d'être dans les studios de France Inter. C'est sûr, on va abandonner la règle des 3% de déficit et la règle d'une dette inférieure en théorie à 60% du PIB. C'est ce que semble indiquer Bruno Le Maire.
Alors peut-être que les 3% vont être maintenus, mais comme on est très hypocrite dans ces milieux, on va simplement faire des exemptions. C'est qu'on va dire par exemple que des dépenses de recherche ou des dépenses militaires ou des dépenses sont hors du sujet. Donc c'est comme ça que ça va se présenter de mon point de vue.
Ouais. Ça vous semble recevable d'ailleurs de mettre de côté une série de dépenses considérant que c'est des investissements porteurs d'avenir et qu'on n'a pas à les comptabiliser dans la dette?
Oui, c'est un débat très ancien. Ouais. Cette règle de 3% est une règle tirée du chapeau. Donc, au fond, que ce soit 3, 4 ou 2%, tout ça était le pur produit d'une sorte de conformisme sur un sujet. Moyennant quoi, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, parce qu'il va falloir trouver un accord avec les Allemands.
Oui.
Vous avez dit qu'on n'est pas sûr qu'ils soient d'accord, évidemment qu'ils ne seront pas d'accord. Oui. En tous les cas, toute une partie de la coalition, les libéraux. Donc, ce qui va se passer, c'est sur le gros sujet, c'est sur les 3% et les exemptions.
Oui.
Et puis, deuxième chose sur la dette, revenir à 60% alors qu'on est à 120, c'est quand même un tout petit peu dire qu'on va grimper au sommet de l'Everest tout en se préparant sur le plateau des 1000 vaches, c'est-à-dire à peu près du même niveau. Donc, je pense que le sujet de la dette va être en réalité moins important. On va en parler, bien entendu, mais moins important que la règle qui doit s'appliquer dès 2022 ou 2023, c'est-à-dire la règle des 3%.
Est-ce que, tout de même, il va falloir faire des économies et des économies substantielles dans les années à venir? L'Institut Montaigne les évaluait pour être dans les clous à 70 milliards au fil du quinquennat à venir. Est-ce que vous nous dites, OK, on va un peu adapter la règle, néanmoins, nous avons des décisions importantes à prendre sur ce terrain?
Oui, mais pas mettre en avant d'abord et avant tout les dépenses. Le problème que nous avons à traiter, ce que je vais dire est évident, c'est que notre système de fourniture de biens et services sociaux, que soient les problèmes de santé, d'éducation, les problèmes du meilleur général de ce qu'on fournit en matière de protection sociale, est aujourd'hui non pas défaillant, parce que les gens sont formidables, c'est pas le sujet, mais l'organisation qu'on a mise en place n'est pas adaptée. Alors ça, c'est évident sur le plan de la santé, c'est évident sur le problème de l'éducation, et c'est ça d'abord
auquel
il faut réfléchir.
Donc ça, c'est des dépenses à venir, ça?
Ce sont à la fois des dépenses et surtout de l'organisation. Donc, réfléchissons peut-être à dépenses fixes, avant de se dire on va diminuer ceci et cela. Réfléchissons d'abord à comment on réorganise. Si on prend le problème des hôpitaux, on sait que je crois que tout le monde est d'accord, il y a un déséquilibre entre la partie administrative qui est excessive et la partie des soignants. Si vous allez à l'hôpital cet après-midi ou moi, j'y vais, je préfère avoir un soignant qu'un administratif. Donc on a toutes ces problèmes de réorganisation à imaginer. Et après, je pense que la réorganisation, je veux dire, conduit elle-même à essayer de rationaliser les choses. Il est clair qu'on a une sorte de surcoût de la production sociale en France qu'il faut essayer de, auquel il faut réfléchir, mais d'abord et avant tout réfléchir à son efficacité.
Surcoût lié à ces questions d'organisation ou il y a d'autres sources
non,
de ce surcoût?
Surcoût très largement lié à la réorganisation. Sur les problèmes d'éducation, on a un énorme problème que montrent toutes les enquêtes internationales. C'est pas du tout la remise en cause des enseignants, parce que il y en a des mauvais, il y en a des bons, comme partout, comme dans toutes les disciplines et dans tous les métiers. Il se trouve simplement que le dispositif lui-même n'est pas bien organisé. Vraisemblablement, avoir une éducation nationale qui soit complètement centralisée n'est pas un bon système. Ça ne marche pas. Et en fait, ça ne marche pas avec des conséquences qui sont très inquiétantes. Le fait, en réalité, que la société française est très segmentée. Vous êtes fils, en gros, de bourgeois, fille ou fille de bourgeois. Vous êtes, en gros, dans des structures et dans des trajectoires qui sont des trajectoires qui vous permettent d'avoir un job et vous en sortir. Vous êtes dans un secteur qui est plus populaire et c'est plus difficile. Attention à ça.
Quand on parle, Jean-Hervé Lorenzi, d'économie, celle qui en parle le plus parmi les candidats, c'est Valérie Pécresse, qui parle de suppression de fonctionnaires. Alors, en sanctuarisant certains secteurs, la santé, justement, l'éducation, la sécurité, mais y a-t-il trop de fonctionnaires en France? Éternelle question de campagne électorale.
Oui, alors, si on reprend exactement ce qu'elle dit, je suis pas du tout en train de faire de la politique, mais juste pour essayer d'être précis, elle dit que elle ne remplace pas un fonctionnaire qui part sur trois, et en fait, elle augmente de mémoire, je crois, 50 000.
C'est ça, elle.
50 000.
200 000
dans
suppressions
des secteurs,
et 50 000 dans les...
Voilà. Elle en supprime. C'est clair qu'il y a des domaines où il n'y a pas besoin d'être un ultra-libéral pour penser qu'il y a des domaines où on a parlé des hôpitaux où vraisemblablement un ensemble de fonctionnaires se marchent un peu sur les pieds. Je parle de fonctionnaires administratifs.
Pas de soignants.
Donc, moi, ça ne m'a jamais gêné de me dire que on traite un sujet, notre système est pas top, on dépense beaucoup d'argent, à juste titre, mais le système est pas top. Donc, il faut le regarder sans crainte, c'est normal. Oui, il y a vraisemblablement des domaines où il y a trop de sous-fonctionnaires, il y a des domaines où il n'y en a pas assez.
Question d'Alain au standard pour vous, Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour Alain.
Oui, bonjour monsieur.
Nous vous écoutons, c'est à propos de l'énergie.
Voilà, je voudrais savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas renationaliser le gaz et l'électricité? Parce qu'on voit aujourd'hui que l'électricité et le gaz, donc, au niveau de la bourse, jouaient comme de vulgaires savonnettes. Et on voit très bien au niveau de ceux qui fournissent là, dans toutes les entreprises, Total et compagnie, ils n'arrivent pas souvent à faire face aux fluctuations et à tenir leur engagement, alors qu'on nous disait que la concurrence, forcément, nous amènerait une diminution d'électricité et du gaz. Voilà.
Merci pour votre question. Alors, les prix de l'électricité et du gaz dépendent de marchés internationaux. On est d'accord, Jean-Hervé Lorenzi. Alain nous dit, est-ce qu'il ne faut pas renationaliser EDF et GDF?
On peut très bien imaginer cette solution, je crois qu'elle n'est pas très réaliste aujourd'hui, mais je comprends très bien qu'on se pose la question. Mais moi, je suis plus, soucieux du fait de rebooster EDF. En fait, il faut... Le vrai sujet d'EDF, c'est qu'il a quand même quelques sujets, soucis en matière, par exemple, de centrales nucléaires. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un problème de risque
20%
sur des soudures.
Voilà.
Des soudures. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste, mais soudures, j'ai beaucoup d'amitié pour EDF et je trouve que c'est une superbe boîte.
20% des réacteurs en maintenance.
Mais il se trouve que pendant 10 ou 15 ans, on a laissé tomber un peu le nucléaire. Et donc, le problème, ça va être un problème de recapitalisation. On a demandé aussi à EDF de fournir aux concurrents de l'électricité dans des conditions qui sont quand même extrêmement défavorables pour EDF. Donc c'est plutôt ça que les sujets nationalisation ou maintien d'un secteur qui est en fait EDF reste très largement public. Donc en fait c'est un peu une forme de dispositif. EDF est public et il faut juste lui donner les moyens de redémarrer, et notamment en matière de recapitalisation.
Et d'ailleurs, il y a un arbitrage qui a été fait ces derniers jours au nom de la lutte pour le pouvoir d'achat et de la limitation de la hausse du coût de l'énergie. On a demandé, vous le disiez à l'instant, à EDF de vendre davantage d'électricité à pas cher, ça fait un trou de 8 milliards dans les caisses. On a trouvé un équilibre entre on protège les foyers, les électeurs aussi, et on met tout de même EDF en difficulté, EDF déjà pénalisé par l'état de ses centrales.
Eh bien, vous voyez, moi je suis en réalité plutôt dans ce cadre-là défenseur d'un EDF qui est quand même un peu, j'allais dire, la vache à lait du dispositif. EDF est une entreprise qui peut-être a des enjeux majeurs, notamment la relance du nucléaire et le maintien du stock. J'aurais trouvé une autre formule que celle-là, qui quand même est, leur colle 8 milliards de pertes en plus, de pertes. Donc je veux dire, c'est quand même, je trouve, très audacieux par rapport au EDF. C'est plus important que ça va, si c'est nationalisé ou pas nationalisé.
Et un cours de bourse qui a dégringolé vendredi. Autre question pour vous, Jean-Révé Lorenzi. Michel au standard. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Inter. Oui, ma question c'était de dire que on oppose trop souvent l'écologie à l'économie. Or, si on fait pas attention à l'écologie, ça impacte au niveau écologique. Alors, regardez les incendies, ça impacte financièrement et économiquement. Mais je dois être concis, donc je peux pas développer un petit peu. Mais il y a les incendies, il y a la sécheresse, il y a des milliers de morts, et puis il y a aussi un coût économique très grand.
Et on voit bien notamment à travers les compagnies d'assurance qui disent que le coût de l'assurance des catastrophes climatiques est de plus en plus élevé, pour résumer votre propos. On a devant nous, Jean-Hervé Lorenzi, des investissements massifs à faire dans la transition écologique, et ça ne ressort pas assez clairement des débats pour l'instant.
Si vous m'autorisez, allez-y. Pour le moment de débat économique dans le pays, avant la présidentielle, zéro. Pour des tas de raisons, dont l'une qui vient d'être évoquée il y a un instant. D'abord, on ne sait pas du tout quel est l'impact de la situation sanitaire, mais surtout, on ne sait pas quel est l'impact de la prise en compte légitime, vous avez parfaitement raison, de la décarbonation, la transition. C'est gigantesque qui va avoir lieu. C'est peut-être, alors les chiffres varient, mais en tous les cas, une cinquantaine de milliards d'euros. C'est très important. Et il faut savoir, un, qui va payer, deux, que ce ne soient pas les ménages les plus défavorisés, oui, ou revenus les plus faibles qui aient à payer cette affaire. Donc ça pose un problème, un, d'investissement, deux, de pouvoir d'achat, trois, de redistribution qui permet aux plus fragiles de ne pas être les grandes victimes de cet impact. Donc vous voyez, vous avez parfaitement raison. J'oppose pas économie et écologie. Je pense que l'écologie s'impose, enfin la transition énergétique s'impose, et que il faut voir que l'impact de cette affaire est absolument géant, et il faut la traiter de manière économique et sociale.
Et je retiens aussi le début de votre réponse. À ce stade, on ne mesure pas l'impact de la crise sanitaire. On était resté sur une fin d'année 2021 où on se disait ça reprend, et ça reprend fort, avec même des pénuries, par exemple les semi-conducteurs. Là, on a du mal à évaluer en termes de conjoncture quel va être l'impact de cette nouvelle vague.
On n'a pas la queue d'une idée sur le sujet. Ceux qui honnêtement, je peux vous faire des prévisions pour le mois de février. Et là, je pense que je ne prends pas trop de risques.
Mais au-delà, c'est risqué.
C'est pas très sérieux. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Personne ne sait comment les gens vont reprendre des activités à la sortie du télétravail, etc., etc. Donc, je demande, comme pas mal d'économistes, que nos candidats prennent le risque de traiter ces deux sujets. Petit 1, comment on réagit par rapport à une éventuelle poursuite finalement du défi sanitaire que évidemment je
que souhaite personne
pas
ne
du
souhaite
tout, ouais. Que personne ne souhaite
et petit 2
Et petit 2, comment on prend en compte cette trajectoire nouvelle qui inclut la transition écologique, la décarbonation et qui évidemment modifie l'investissement, la consommation et le pouvoir d'achat.
Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi d'être venu dans les studios de France Inter. J'ajoute qu'il y a un troisième sujet qui vous tient à cœur, c'est le 1,5 million de jeunes qui sont sans emploi ni en recherche d'emploi ni en formation, les NEET. Voilà un autre sujet pour la campagne électorale. Merci beaucoup.